Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. L'envoyé spécial américain Keith Kellogg est en Ukraine pour le jour de l'indépendance. Hier, les familles de disparus ont manifesté en amont de sa visite. Nous serons à Kiev en début de ce journal. À peine arrivé, le nouveau président conservateur polonais est déjà préparé à modifier la constitution. Notre correspondant a suivi des juristes qui sensibilisent la population au texte. Et enfin, les universités d'été des Insoumis se terminent aujourd'hui. Les militants LFI préparent une rentrée solitaire, loin des coalitions entre partis de gauche. L'Ukraine fête son jour de l'indépendance dans des conditions particulières. Alors que Donald Trump tente d'organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, l'envoyé spécial américain Keith Kellogg est à Kiev. En marge de cette visite, de nombreuses familles de disparus ont manifesté hier dans la capitale pour attirer l'attention sur leur deuil impossible. Sur place, Bastien Bory.
Il y a les sirènes d'alerte, le sifflement des drones, les promesses du pouvoir et les journaux télévisés en boucle. Mais la guerre peut aussi se rappeler aux familles par une phrase sèche. Vitalina savait que ce jour finirait par arriver.
J'ai reçu un message qui me disait que mon fils avait disparu sur le front. J'ai appelé partout et on ne sait rien. Il a 26 ans et c'est mon seul enfant.
Dans ce silence, les familles deviennent enquêtrices, mais chaque démarche se heurte à la même consigne, attendre. Et ce sont souvent les femmes qui tiennent la chronique de l'absence. Zoriana est épouse et Valeria, sœur de soldats disparus. Elle manifeste depuis 2 ans.
Personne ne fournit d'informations sur le nombre de morts et de disparus. L'armée reste silencieuse. Elle nous dit seulement de patienter.
Je n'ai aucune information sur mon frère. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il est encore en captivité. Tout ce que je sais, c'est qu'il est quelque part et que je me battrai. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'aurai une réponse. C'est la seule chose qui me donne la force de continuer.
Pas une demande de rendez-vous n'a été accordée par le palais présidentiel. L'affaire est trop sensible politiquement. Ainsi, plus de 10 000 familles se sont tournées vers le bureau ukrainien du Comité international de la Croix-Rouge, selon son porte-parole, Pat Griffiths.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car au moins ces personnes-là savent qu'elles doivent s'adresser à nous pour lancer des recherches. Mais il y a beaucoup plus de familles qui, soit ne savent pas qu'elles doivent nous contacter pour ouvrir les demandes, soit ne sont pas en capacité de le faire.
Sciemment, la Russie ne fournit pas non plus de liste complète des prisonniers et des corps ukrainiens qu'elle détient. Au conflit militaire susceptible de se terminer un jour, s'ajoute ainsi une bataille psychologique et rien ne dit que celle-ci aura une fin.
Bastien Bory depuis Kiev. Changer la constitution dans les prochaines années. Le projet du nouveau président nationaliste et conservateur de la Pologne, Karol Nawrocki, alors à peine entré en fonction. Mais depuis 5 ans, une petite équipe de juristes sillonne le pays en van pendant l'été pour alerter sur l'importance de ce texte fondateur et de son fonctionnement. Notre correspondant en Pologne, Adrien Sarla, est allé à leur rencontre hier pour suivre leur intervention dans la ville de Radom.
C'est par cette lecture du préambule de la Constitution que s'ouvre la rencontre. Ce texte, peu de Polonais ont pris le temps de le lire, pourtant il sature le débat politique, chaque parti s'accusant mutuellement de violer la Constitution en permanence. Des accusations plus ou moins fondées, selon la juriste Kinga Dagmara-Siadlak.
Il faut se rappeler que la réalité ne peut pas tout le temps être en accord avec la Constitution, car la Constitution est un modèle vers lequel on doit toujours essayer de tendre au maximum.
Le tour de Constitution, lui, a justement vu le jour durant les 8 ans de règne du Parti National Conservateur Droit et Justice, qui a fait reculer le pays sur les droits humains et a sapé l'indépendance du système judiciaire. Alors, quand Kinga entend le nouveau président, soutenu par ce même parti, accuser le camp de Donald Tusk de violer la Constitution, elle sourit.
Je ne suis pas du tout d'accord avec le président, car ces accusations, c'est de la politique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'en disent les experts et je préfère me référer à eux.
Dans son discours d'investiture il y a 2 semaines, il a pourtant assuré lancer les travaux pour établir une nouvelle constitution pour le pays dès 2030.
Il voudrait élargir les compétences du président, mais son domaine d'action est très clairement délimité par la constitution et dans aucun cas il ne peut changer la constitution sans l'accord du Parlement.
Le texte nécessiterait l'approbation par une majorité aux 2/3 du Parlement, une majorité qu'aucun parti en l'état n'est en mesure de rassembler.
Une nouvelle coalition sans l'extrême droite pour libérer les otages à Gaza. Hier, le chef d'un parti d'opposition en Israël a lancé un appel à Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement temporaire. Depuis juillet dernier, le premier ministre israélien n'a plus de majorité absolue au Parlement et est tributaire de ses alliés d'extrême droite qui refusent tout accord avec le Hamas. Les bombardements continuent dans la bande de Gaza. Hier, la défense civile palestinienne fait état de 51 morts. Son porte-parole alerte sur la destruction totale de blocs résidentiels entiers dans certains quartiers. Clap de fin sur les amphis, les universités d'été des Insoumis, organisées près de Valence en France tout le week-end. Elles se terminent aujourd'hui avec les discours de Manuel Bompard et Mathilde Panot. Les Insoumis qui préparent une rentrée politique assez solitaire, alors que plusieurs partis de gauche comme le PS et les Verts essaient de se mettre d'accord sur un candidat commun pour la présidentielle de 2027. Mais sans LFI bien décidé à envoyer Jean-Luc Mélenchon, Elia Bergel, les militants insoumis assume de faire cavalier seul.
Oui, ici, absolument personne n'imagine LFI s'effacer derrière une union de la gauche en 2027.
Candidature commune, oui, mais derrière LFI, voilà.
Non, pas de primaire du coup.
La rentrée politique des Insoumis se fait sous le soleil près de Valence, mais surtout en solitaire. Une éventuelle primaire de la gauche, c'est un piège, balaye Léo, jeune militant lyonnais.
On ne sait pas qui vote à la primaire, pas que les gens de gauche qui votent à la primaire. Les gens de droite viennent voter aussi pour avoir le candidat de gauche qui les arrange le plus. Donc un Roussel, un Ruffin ou un Sos des Mou à la Hollande.
En ligne de mire, les socialistes notamment, souvent hués, moqués ce week-end, lors de conférences ou pendant cette prise de parole du député LFI Antoine Léaumont.
8 fois sur 8, la France insoumise a voté la censure de François Bayrou. 2 fois sur 8 seulement, le Parti socialiste a voté la censure de François Bayrou.
Les insoumis essayent de se poser en force fidèle à ces valeurs qui ne fait pas de concessions, au risque de cliver, de ne pas réussir à rassembler autour d'eux. Mais pour Annie, militante drômoise, la porte de LFI est ouverte aux autres à une condition.
Nous sommes sur le programme et rien que le programme. Maintenant, qui veut vient, mais ils savent qu'il y a un programme. Et nous, on est là-dessus, on ne dérogera pas. On est droit dans nos baskets, voilà.
Chez les Insoumis, tout le monde est d'accord pour partir seul à la présidentielle 2027, mais tout le monde n'est pas d'accord à l'idée d'envoyer encore Jean-Luc Mélenchon.
Il a beaucoup travaillé et là, il faut qu'il se repose, donc il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais pour moi. Son héritage, on va le reprendre, il y a d'autres personnes qui peuvent le reprendre et l'incarner au sein
de
LFI.
Ce militant pose une question taboue au sein de LFI, un parti très critiqué pour son manque de démocratie interne. Qui pour prendre la suite quand Jean-Luc Mélenchon arrêtera ? L'insoumis en chef a 74 ans et refuse pour le moment d'aborder le sujet de sa succession politique.
Lui aussi se prépare à une rentrée politique délicate. François Bayrou doit tenir une conférence de presse demain à 16h. Une prise de parole sur fond de discussion sur un budget à 43 millions d'euros d'économies et d'appel au blocage pour le mouvement du 10 septembre. L'accord entre indépendantistes et non-indépendantistes trouvé début juillet en Nouvelle-Calédonie a-t-il encore un avenir ? Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a prolongé son séjour dans l'archipel et veut y croire, malgré la défection des indépendantistes du Front de Libération Kanak et Socialiste. À Nouméa, Charlotte Manvi.
D'ici son départ lundi soir, le ministre des Outre-mer espère revoir les indépendantistes du FLNKS. Mais à condition qu'ils veuillent construire, a-t-il nuancé. Pas question pour Manuel Valls de revenir sur l'accord validé à Bougival en région parisienne début juillet. Or, c'est exactement ce que demande le FLNKS après le rejet du texte par ses militants. Le ministre ne veut pas entendre parler d'impasse. La majorité des Calédoniens sont favorables à Bougival, ne cesse-t-il de marteler. Dit-il vrai ? Bien difficile de dire aujourd'hui qui pèse quoi, tant les violences de 2024 ont rebattu les cartes, et alors qu'aucun scrutin local n'a eu lieu depuis 6 ans maintenant. Pour asseoir le texte, Manuel Valls a proposé un comité de rédaction chargé de traduire juridiquement l'accord, comité qu'il ne cesse d'élargir en y intégrant le Sénat coutumier et désormais le Conseil économique, social et environnemental. Une inflation de membres qui cache mal les chaises vides laissées par le FLNKS et qui n'empêche pas les états d'âme. Peut-on faire un accord de décolonisation sans le principal mouvement indépendantiste ? Même certains signataires de l'accord se posent la question.
Près de 500 000 euros de subventions en moins pour Rock en Seine, après avoir maintenu NICAP, un groupe pro-Palestine, dont l'un des membres est poursuivi pour son soutien au Hezbollah. Le Festival des Hauts-de-Seine revendique sa liberté de programmation. Le trio irlandais doit se produire en fin d'après-midi, mais sera sous haute surveillance. Un mot du temps qui sera très doux ce matin. Les températures iront de 16 à 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information à 12h30 avec Jeanne Serrin.